Les violons et les valois, c'est le titre du troisième album des Sonneries. Alors les Sonneries, Alain Gervaud, c'est votre ensemble, mais c'est peut-être aussi et surtout une aventure qui commence pour vous en 2011. Aventure musicale, bien sûr, mais aussi universitaire et historique.
Oui, c'est le début du doctorat. En fait, à cette époque, j'avais prévu d'éditer les premières partitions, les premières musiques que pouvait jouer un violoncelle ancien. Et puis, j'ai entendu une conférence de Mark Pansry Wake, le musicologue, qui parlait des ensembles de violons à la Renaissance. Et là, en fait, j'ai tellement été passionné que j'ai changé mon programme de doctorat. Et voilà, je me suis embarqué donc dans cette recherche. Et j'ai découvert que notre histoire moderne, en fait, de la musique ancienne avait oublié cette tradition qui remonte au tout début du XVIe siècle. Et qui faisait que les ensembles de violons qui étaient entre 3 et 6, en général, voire 7 quelquefois, étaient très communs à l'époque et ils servaient à beaucoup de choses, à la musique d'ambiance. Ils servaient aussi pour le bal, ils servaient pour les concerts, ils servaient pour les banquets et ils servaient pour les rencontres politiques aussi. Et en fait, c'était très important pour les rois et les papes et tout ça, quand ils se rencontraient pour des négociations, d'avoir leurs meilleurs musiciens avec eux. Et donc voilà, en fait, c'était complètement intégré dans la vie quotidienne. Entre justement Charles le Téméraire et Charles Quint, en fait, donc qui correspond plus ou moins à la vie de Michel-Ange, eh bien, en fait, ces ensembles de violons se sont développés quasiment dans toute l'Europe.
C'est une sorte d'âge d'or du violon, même si on l'a un peu oublié.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, on place l'âge d'or du violon à la fin du XVIe siècle, quand les fils Amati ont défini les formes, les proportions, etc. Alors, certains disent le père Amati, mais c'est un peu contesté. Voilà, le violon à ce moment-là, donc à l'époque où on rentre dans la musique baroque, effectivement, en fait, nous on place l'âge d'or du violon à ce moment-là parce que c'est l'âge d'or du violon soliste, puisque la musique baroque en fait va privilégier le côté soliste. C'est là que vont naître les sonates, c'est là que vont naître les opéras aussi avec les chanteurs en soliste. Mais pendant un siècle avant, en fait, le violon a eu un âge d'or, en fait, mais en ce qu'on appelle en bande de violon, c'est-à-dire avec différentes tailles qui vont de la basse, en fait, de la grosse basse, avec une petite basse, un ténor, un contralto, un alto, un violon, en fait, et un tout petit violon qu'on appelle exilande ou falsetto en Italie.
Et c'est ainsi que l'on joue aussi bien de la musique à danser que de la musique religieuse. Et ça se retrouve dans votre programme.
Voilà, en fait, à l'époque, la musique que jouaient les violons était en grande partie de la musique vocale. Ce pouvait être de la musique religieuse, de la musique profane, donc des motets ou des madrigaux. Et bien sûr des danses, puisque dans les semaines de fêtes lors des mariages chez les nobles, on dansait jusqu'à 3 ou 4 heures le soir après souper.
Alain Gervaux, le titre de votre CD, Les Violons et les Valois. Alors, qui sont ces Valois ?
Alors, donc, les Valois, ben, ce sont les quatre ducs de Bourgogne-Valois, donc, dont le dernier est Charles le Téméraire. Comme ces quatre ducs avaient inquiété l'équilibre politique en Europe et particulièrement en France, puisqu'ils s'étaient un peu tous oxys les uns les autres pour essayer de prendre le pouvoir, on a marié la fille de Charles le Téméraire à l'empereur, à celui qui va devenir empereur ou autrichien. Le petit-fils de cet empereur, en fait, se trouve être Charles Quint. Et donc, Charles Quint va batailler contre François Ier pour essayer de récupérer la Bourgogne, puisqu'il estime que, par filiation, c'est à lui que ça doit revenir. Voilà, donc nous, on a placé, en fait, il se trouve que l'évolution des instruments à cordes frottées dans cette période est énorme, puisqu'on va passer, en fait, du 15e au 16e siècle, au début du 16e siècle, du rebec et de la vielle médiévale à ces ensembles de violons qui apparaissent petit à petit un peu partout.
On a les violons à bras et puis elle rendra plus tard ou un peu en même temps la viole de gambe, alors celle qui se joue debout et l'autre plus difficilement.
Voilà, alors en fait ce sont deux familles d'instruments qui naissent quasiment simultanément. Peut-être la viole de gambe un tout petit peu avant, quoique on n'en est pas certain. Ce qui est étonnant, c'est que cette famille de viole de gambe apparaît avec une taille assez grosse, semble-t-il, au départ, qui est celle du ténor ou d'une petite basse, alors que chez les violons, on voit apparaître plutôt au début le petit instrument. Les nobles, à l'époque, pouvaient jouer la viole de gambe, tout simplement parce que, à partir du moment où on faisait intervenir les mathématiques pour positionner les frettes sur le manche, eh bien, cela faisait partie des sciences nobles. Et il faut dire aussi que ces frettes étaient bien pratiques pour les nobles qui étaient en fait des amateurs de musique, pour aider à mettre les doigts au bon endroit, etc. Donc il y avait un petit peu, disons, pour le commençant, la viole de gambe est un peu plus facile. Les violons, par contre, il n'y a pas de frettes. Et puis, trop les consorts de violons, puisque c'était tout simplement des gens de basse condition, en fait, hein, des bandes de violons, comme on les appelle, qui jouaient ces instruments. Et ça n'était pas considéré comme quelque chose de noble. Alors que la viole de gambe, elle, faisait partie donc des divertissements auxquels les nobles avaient accès. Et elle faisait partie aussi même de l'éducation, puisqu'on voit sur un tableau anglais des enfants, en fait, avec des gentilshommes, avec des chapeaux, en fait, voilà, dans une pièce, qui sont en train de jouer de la viole de gambe. Voilà, tout ça fait qu'effectivement, ni sur les tableaux, ni dans les traités anciens, on ne voit apparaître de manière précise ce mode de production musicale, puisque c'était un peu comme le MP3, c'est-à-dire quelque chose qui était un peu banal, mais en même temps joué par des gens qui étaient de basse condition. Et il semble, pour les premiers violonistes, il semble qu'il s'agisse en fait de membres de la communauté juive, particulièrement à Venise, hein, dans le ghetto, ou bien dans des villes, en fait, il y avait des grandes communautés juives comme Mantova, Mantoue, ou bien Ferrare, voilà.
Sans aller trop loin, est-ce que ça peut être aussi une des raisons du caractère attribué au violon de diabolique, voire même associé à la mort ?
Oui, alors en fait, c'est étonnant parce que même au XVIIe, par exemple, dans les tableaux hollandais, si vous voyez par exemple une femme qui tient un violon, en fait, la signification, c'est que cette femme est une prostituée, en fait. Donc c'est étonnant comme le violon a été attaché toujours, en fait, à quelque chose d'inquiétant, quelque part.
Thank you. Alain Gervaux, à l'occasion de ce programme, alors le programme de disques, c'est une trentaine de pièces, essentiellement des pièces courtes. Certains d'entre nos compositeurs sont connus, enfin, du moins quand on s'intéresse à ce genre musical, je pense à Pierre Attagnan, je pense à Tilman Suzzato. Ne parlons pas, bien sûr, des anonymes, mais on découvre quand même beaucoup de noms qui sont encore moins familiers que les deux que j'ai cités.
Il se trouve que les musiques qu'on a rassemblées pour cette occasion sont des musiques du tout début du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on se trouve en fait à la fin de la vie de Josquin des Prés, et il y a aussi beaucoup de musiques qui ne figurent que dans des manuscrits.
Vos sources sont nombreuses, hein?
Effectivement, puisque à la Renaissance, les pièces sont assez courtes, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiques qui sont à la fois, qu'on retrouve à la fois en manuscrit, donc dans les bibliothèques, et puis également donc chez les éditeurs comme Attagnan à Paris, comme Jacques Moderne à Lyon, ou bien Tilman Suzzato à Anvers. Et donc, ces éditeurs, dont le premier, par exemple, Petrucci, Ottaviano Petrucci à Venise, en 1501, donc, commence à publier énormément de livres de polyphonie, alors que ce soit d'ailleurs des polyphonies religieuses ou profanes. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, enfin, dans le CD qu'on vient de sortir, en fait, c'est... ce sont des musiques qui ont été copiées par des violonistes, donc une bande de violons qui était au service du roi d'Angleterre, qu'on appelle le manuscrit Lumley, parce qu'il a appartenu à un monsieur Lumley. Et donc, ces violonistes étaient un groupe, en fait, de ménétriers venant de Venise, qui avaient été appelés par le roi Henri VIII à son service en 1540. Donc, vous voyez, on est assez tôt dans le XVIe siècle. Et pour que Henri VIII fasse venir un consort de violon, eh bien, il faut que ça soit quelque chose qui soit déjà reconnu, en fait, et qui soit apprécié dans toute l'Europe.
Est-ce que c'est aussi une manière d'explication et qui s'étonnerait qu'on n'entende aucune voix dans votre enregistrement, même lorsqu'il s'agit de chansons?
C'est très délicat comme question parce que d'un côté, il y a ces bandes de violons donc, qui sont vraiment complètement autonomes, sont régies par les lois des guildes et on trouve dans les ordonnances de procession, par exemple, l'information comme quoi ces violons n'étaient jamais mélangés avec les chanteurs. Il y avait des groupes de chanteurs, il y avait des groupes d'instruments avant, des groupes de violons voilà, qui marchaient dans la procession. Or, quand les violons jouaient justement pour les rois, en fait, ils jouaient de la musique vocale. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, on n'a pas de chanteurs, mais ce sont les violons qui jouent les parties des chanteurs. Chacun, selon la taille de son instrument, va prendre la tessiture qui convient. Mais en même temps, on trouve dans certains lieux, comme par exemple à la cour des papes à Rome, on voit bien que dans certains endroits, il y avait des mélanges. C'est-à-dire qu'on avait par exemple un petit ensemble qui a joué pour une occasion, eh bien, il y avait un ou deux violons, il y avait une flûte traversière, un traverso ancien, il y avait une chanteuse, un clavecin, etc. Donc voilà, les deux ont existé. C'est-à-dire que justement, dans notre précédent CD qui s'appelle Cantate Violini, qui veut dire chanter les violons, eh bien, on a justement mélangé en fait les timbres des violons avec la voix de la soprano Anne de la Fosse.
Thank you. Alain Gervaux, on a eu l'occasion d'évoquer rapidement les instruments, alors des violons un peu particuliers, et surtout le plus petit, le plus aigu, si je peux dire. Si on n'entend pas de voix, là aussi on en a parlé, on entend le luth, on entend un instrument qui est peut-être encore moins connu, la guiterne.
Oui, alors la guiterne, c'est simplement l'ancêtre de la guitare. En fait, c'est la guitare Renaissance.
C'est pas le théorbe, non, en même temps.
Ah non, pas du tout, non. Le théorbe apparaît pas exactement au même moment et ne faisait pas partie des instruments qui jouaient avec les consorts de violon. Les trois instruments principaux qui jouaient avec ces ensembles et qu'on retrouve parfois donc, sur les tableaux, c'était l'orgue qui n'était évidemment pas pas tout le temps. En tout cas, à la cour, en fait, ça n'était pas un énorme orgue comme on les voit aujourd'hui.
Ce n'étaient pas nos gros instruments romantiques.
Voilà, donc c'était des petits orgues en bois, hein, souvent plutôt un principal qu'un petit coffre.
Genre des petits positifs qu'on amène à l'occasion des concerts parfois ?
Alors non, en général quand même dans les châteaux, ils avaient les moyens, donc ils avaient plutôt des orgues avec des tuyaux ouverts. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on avait fait, c'était un peu voilà, comme un confiturier ou vous voyez un meuble, en fait, dans lequel il y a quand même des tuyaux. C'est pas complètement fermé comme, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que souvent, par confort, voilà, pour le transport, etc., on a tendance à avoir ce qu'on appelle des coffres, c'est-à-dire des coffres avec des tuyaux bouchés dedans. Hein. À l'époque, en fait, ils avaient plutôt des tuyaux ouverts, voilà, ça restait quand même des petits orgues, mais un peu plus importants que ceux qu'on utilise couramment aujourd'hui, en concert. L'autre instrument qui était très prisé, en fait, avec les violons, c'est le luth. En fait, le luth était très souvent à côté des violons. Et bien sûr, pour la danse, utilisait une guiterne, c'est-à-dire la guitare de la Renaissance.
On n'entend pas d'orgue dans le CD, mais alors on entend le luth.
Voilà, Pascal Boquet, donc, qui est une des figures principales du luth en France, qui anime la Société française de luth, qui a effectivement quelques petites plages sur le CD où elle nous communique en fait l'équivalent des pièces que l'on joue avec les violons, mais jouées au luth.
Alain Gervaux, en évoquant votre CD, en évoquant votre programme, en évoquant les sonneries en général, finalement, on se prend une sacrée leçon d'histoire en même temps d'histoire de la musique. Est-ce que ça fait partie de vos soucis ? Est-ce que vous arrivez à traduire ces soucis-là lorsque vous vous présentez devant le public en concert ?
Alors, notre premier souci, en fait, c'est effectivement de rendre cette musique accessible à tout le monde. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, les motets, alors le mot sonne un peu vieillot, les madrigaux, ben, c'est aussi un peu lointain. En fait, ces musiques, dès lors qu'on enlève la poussière, si on pouvait dire comme ça, dès lors qu'on enlève la poussière, eh bien, ces œuvres, en fait, sont absolument incroyables, sont lumineuses, profondes, parle directement en fait à l'auditeur dans un équilibre qui fait du bien en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on constate avec le jeu en bande de violon, c'est que le son qui est profond, lumineux et chaleureux en fait avec les cordes en bois ionu et avec les instruments donc dans l'équilibre dans lequel ils étaient à la Renaissance, eh bien en fait ça donne quelque chose qui fait beaucoup de bien en fait et qui est un véhicule, je dirais, pour cette polyphonie qui est absolument parfaite. C'est-à-dire que il n'y a pas de parasites, il n'y a plus de poussière et notre jeu en fait debout, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des violons d'abbraccio, c'est-à-dire qu'on tient sur le bras, même la basse est tenue en bandoulière. Donc on est quelque part un peu plus présent, un peu plus mobile, un peu plus spontané en fait dans l'exécution des pièces. Et voilà, et en plus on essaie évidemment de trouver un équilibre entre les pièces plutôt méditatives et les pièces pleines de rythme comme les danses. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, je crois que tous les ensembles actuellement qui s'occupent de musique très ancienne font bien attention à ça et sont passionnés même par ce côté en fait de dépoussiérer ces musiques en fait de tout ce qui pourrait les alourdir ou bien les rendre obscures. Car en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ces musiques sont au contraire très claires, très faciles d'accès et apportent énormément en fait.